Europe 1, 15h-16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. L'intelligence artificielle n'est pas un détail de l'histoire. C'est l'avenir de l'humanité qui se joue dans ces lignes de code. Je reçois donc aujourd'hui Laurent Alexandre, chirurgien, neurobiologiste et énarque, fondateur de Doctissimo et de plusieurs entreprises de high-tech, qui dans un ouvrage passionnant intitulé « La guerre des intelligences », ouvrage paru chez Lattès, nous explique comment dans un monde déjà dominé par l'intelligence artificielle, l'homme va devoir gérer sa survie, et bien pour ne pas subir son futur.
Europe 1.
Bonjour Laurent Alexandre.
Bonjour.
Laurent Alexandre, ainsi donc, au moment où nous nous parlons, l'intelligence est la dernière frontière de l'égalité entre les hommes. Et elle est pour l'instant l'inégalité que la société corrige le moins bien. Or, vous dites que cette frontière va être abolie dans les décennies qui viennent par la révolution de l'intelligence artificielle ?
Oui, il va bien falloir diminuer les inégalités intellectuelles. On voit bien qu'on se satisfait aujourd'hui, en 2018, d'inégalités très fortes entre les gens qui ont fait des études, qui comprennent le monde, qui ont une intelligence conceptuelle développée, et puis ceux qui sont moins doués, qui ont fait moins d'études et qui comprennent moins les concepts, qui sont moins à l'aise avec les données, avec les datas, avec l'informatique. Il y a aujourd'hui un gap, il y a un fossé qui s'est établi. Et dans le monde de demain, où l'intelligence artificielle va être de plus en plus puissante et va finir par être plus intelligente que certains hommes, il risque d'y avoir des conséquences graves à cette inégalité intellectuelle. Il est donc urgent, à côté de l'intelligence artificielle, de réfléchir à l'intelligence humaine pour qu'il n'y ait pas des hommes, beaucoup d'hommes, qui soient en déséquilibre par rapport à l'intelligence artificielle, qui soient marginalisés et qui finalement nous fassent rentrer dans le cauchemar que Harari, dans son dernier livre Homo Deus, décrit des dieux et des inutiles. Gods and useless, en anglais.
Les inutiles, des dieux, c'est-à-dire les intelligences très modestes.
Des dieux qui manipulent la société, qui comprennent l'intelligence artificielle, et puis des inutiles qui sont paumés et pour lesquels le monde est devenu trop compliqué et qui, à la fin, finissent au revenu universel parce qu'on n'arrive pas à leur trouver un boulot.
Alors, la science du XXIe siècle, elle est totalement structurée autour du réseau Internet et de l'intelligence artificielle. Or, l'objet des nouvelles technologies, donc portées par l'informatique et l'intelligence artificielle, en réalité, c'est la modification de notre humanité biologique. On n'en est plus à la manipulation de la matière inanimée. Ça change tout. Donc, sur les 7,5 milliards d'habitants de cette planète, il y en a moins que extrêmement peu qui ont conscience, sans doute, que d'ici une vingtaine d'années, de nouvelles sociétés vont naître dirigées par des cerveaux augmentés. Et on va parler tout à l'heure des prothèses neuronales, des implants.
Oui, alors les gens ne voient pas très bien les projets qui sont en train d'émerger en Chine et en Californie. Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, est en train de développer une fusée pour coloniser le cosmos et il a l'intention que l'humanité envoie 1000 milliards d'astronautes, c'est-à-dire beaucoup plus qu'il y a d'êtres humains aujourd'hui dans le cosmos. Elon Musk est en train de développer 1000 projets, une fusée pour aller sur Mars, des implants intracérébraux à mettre dans le cerveau de nos enfants pour augmenter leur capacité électronique. Vous vous rendez compte, des microprocesseurs directement à l'intérieur du cerveau de nos enfants et de nos petits-enfants. Google a développé une société pour euthanasier la mort, pour nous rendre immortels. Calico, Amazon encore, Apple sont en train de rentrer dans le monde de la santé.
On commence déjà, paraît-il, à pouvoir écrire sur des claviers numériques, d'ailleurs par télépathie, ça, avec des microprocesseurs dans le cerveau.
Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, s'est engagé à sortir dès l'année prochaine des systèmes qui vont nous permettre de communiquer avec des casques télépathiques d'homme à ordinateur, d'ordinateur à homme et d'homme à homme. C'est le début de la télépathie. C'est une révolution majeure pour notre société. Donc on voit bien que les dirigeants des grands groupes industriels de la Californie et de la Chine, bientôt, sont en train de créer un monde nouveau, un monde bouleversant, un monde vertigineux, et vont se servir de l'intelligence artificielle et des biotechnologies pour changer notre humanité. D'ailleurs, en Californie, on appelle ça l'homme 2.0, c'est-à-dire un homme modifié par la technologie, un homme qui est devenu Dieu, Homo Deus, l'homme Dieu, grâce à la puissance de la technologie.
Mais alors, Laurent Alexandre, le danger donc de la neuro-révolution, qui est la révolution des sciences du cerveau et de l'intelligence artificielle, voilà, vous nous l'avez fait comprendre à l'instant, c'est celui d'un monde où l'homme va subir son futur. Il servira à quoi, l'homme, dans un monde saturé d'intelligence artificielle? Celui qui n'aura pas un cerveau augmenté, donc, deviendra une sorte d'esclave?
C'est toujours un peu difficile de prédire le futur. Ma conviction, c'est que si on garde des inégalités intellectuelles trop fortes, on aura un monde invivable. On aura un monde aussi odieux que le monde du XVIIIe siècle, avec un fossé immense entre la cour de Versailles et puis les paysans pauvres. Donc ça, c'est la conséquence qui me paraît la plus évidente. Moi, j'ai la conviction qu'on va quand même moderniser l'école. J'ai la conviction qu'on va utiliser les sciences du cerveau et l'intelligence artificielle pour rendre l'école plus efficace et pour diminuer les inégalités intellectuelles. Et dans les décennies qui viennent, avec le développement de l'intelligence artificielle, si on veut éviter d'avoir un apartheid intellectuel, c'est-à-dire une société à deux vitesses, avec d'un côté les gens doués qui comprennent le monde et puis de l'autre des gens moins doués, si on veut éviter ce cauchemar, il va falloir beaucoup investir dans la recherche en éducation.
Mais alors, Laurent Alexandre, en 1990, personne n'avait jamais entendu parler d'Internet, n'est-ce pas? Aujourd'hui, toutes nos vies sont connectées et dépendent chaque seconde un peu plus de l'intelligence artificielle. Mais quand, comment et par qui est apparu ce concept d'intelligence artificielle? Le premier ordinateur, c'est à peu près 1930?
Alors, les tout premiers ordinateurs, c'est la fin des années 30, hein, mais ils étaient très embryonnaires. Les vrais ordinateurs apparaissent à la fin des années 40, hein, début 50. Le premier transistor électronique, c'est 1947. Et les transistors sont industrialisés pendant la décennie 1950-1960. Et le premier microprocesseur apparaît en 1971 et est développé par Intel avec Gordon Moore, dont le nom est bien connu, qui était l'un des inspirateurs du microprocesseur. Depuis, la puissance informatique a considérablement augmenté. Aujourd'hui, les plus gros ordinateurs sur Terre font 100 millions de milliards d'opérations par seconde. Le premier ordinateur en 1938 faisait une opération par seconde. Ouais. Donc on a multiplié en 70 ans, on a multiplié la puissance informatique par 100 millions de milliards par seconde. La puissance informatique, couplée à la quantité incroyable d'informations que nous mettons sur nos téléphones portables, a entraîné un renouveau, une renaissance de l'intelligence artificielle.
Par la banque de données phénoménale.
Par les banques de données phénoménales.
C'est-à-dire qu'on offre gratuitement.
Exactement.
En fait.
On s'est rendu compte que quand on donnait des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'informations à un logiciel, il arrivait à auto-apprendre. C'est ce qu'on appelle le machine learning ou le deep learning. Et donc, à partir du moment où on a commencé à mettre sur Facebook, sur Google, etc., des quantités incroyables de données, on a permis aux géants du numérique, Google, Apple, Facebook, Amazon, et en Chine, Baidu, Alibaba, Tencent, ouais, et Xiaomi, on leur a permis d'éduquer leur intelligence artificielle à reconnaître les sons, à reconnaître les images, etc. Et il faut savoir que nous et nos enfants, nous mettons chaque jour gratuitement 10 milliards de photos sur Facebook.
À disposition.
À disposition, et que ça permet à Facebook d'éduquer ces intelligences artificielles, parce que contrairement à l'informatique traditionnelle, l'intelligence artificielle, elle ne se programme pas, ouais, elle s'éduque. Ouais. Elle s'éduque un peu différemment de la façon dont on éduque un enfant, mais elle s'éduque.
Justement, comparons l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle. Pour l'instant, les programmes informatiques les plus sophistiqués n'ont pas encore acquis les caractéristiques les plus subtiles d'un cerveau humain. Ce qui est fou, c'est que le cerveau, en fait, humain, c'est un ordinateur fait de viande. J'insiste sur ce mot. Mais c'est un ordinateur très complexe qui a des particularités incroyables.
Très complexe par rapport
au circuit intégré. Vous pouvez nous rappeler lesquels?
Alors, le cerveau humain, d'abord, il apprend avec très peu d'exemples. Un enfant lui montre 3 girafes, il envoie une 4e à la télé, il va reconnaître la girafe. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un exploit absolument incroyable. Ensuite, il ne prend pas beaucoup de place. La boîte crânienne, elle est toute petite. Et puis, ils consomment très peu d'énergie. Les gros ordinateurs consomment des quantités incroyables d'énergie. Dans 20 ans, les plus gros ordinateurs pourraient consommer presque ce que produit une centrale nucléaire comme électricité. Vous voyez qu'on est loin du caractère très économe de notre cerveau. Donc, notre cerveau, il est économe, il est petit, il va vite, il fait des raccourcis, il est transversal, il est multidisciplinaire, ce que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire. Il est capable de développer un esprit critique assez sophistiqué, puis surtout, il a une conscience de lui-même. Notre cerveau sait qu'il existe. L'intelligence artificielle, pour l'instant, n'a pas de conscience artificielle. Elle ne sait pas qu'elle existe.
Mais alors, donc, Question funeste, juste avant de nous interrompre un très bref instant, Laurent Alexandre. Quand l'intelligence artificielle, qui n'a pas conscience d'elle-même, quand va-t-elle s'affranchir des scripts préconçus par des informaticiens ? Parce qu'en fait, tout ça, c'est de la puissance de calcul, l'intelligence artificielle. Donc, on pourrait presque dire que c'est l'ensemble de toutes les intelligences humaines connectées les unes aux autres.
Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut s'autonomiser de l'intelligence humaine ? En fait, il y a deux questions. Est-ce que c'est techniquement possible ? Et à quel horizon ? Et est-ce que c'est souhaitable ? À la première question, il est très difficile de répondre. Cet été, Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, et puis Elon Musk, le propriétaire de Tesla, se sont insultés. Pendant tout l'été, Elon Musk expliquant que Facebook prenait des risques et risquait de fabriquer des intelligences artificielles hostiles, ce à quoi Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a expliqué qu'Elon Musk était complètement hystérique. Et Elon Musk a répondu au patron de Facebook que de toute façon, il ne comprenait rien à l'intelligence artificielle. Donc on voit qu'il y a déjà, à l'intérieur même de la Silicon Valley, une guerre, une opposition entre ceux qui pensent que l'intelligence artificielle peut être hostile et avoir une conscience d'elle-même relativement vite, et puis ceux comme Mark Zuckerberg qui pensent que ça ne peut pas arriver avant 2050. Et puis l'autre question, c'est à supposer qu'il soit possible que nous fabriquions des intelligences artificielles ayant conscience d'elles-mêmes, est-ce que c'est raisonnable de le faire ? Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Et là, la question est encore plus vertigineuse. Peut-être faut-il bloquer les progrès de l'intelligence artificielle ?
On va creuser cette question dans un moment. On retrouve tout de suite Laurent Alexandre. Alors, cher Laurent Alexandre, vous êtes chirurgien, neurobiologiste, vous avez fait HEC et vous êtes énarque. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce cursus est peu courant. Mais surtout, ce cursus, il exprime presque des antagonismes. D'un côté, HEC et l'ENA au service des chiffres et du pouvoir. De l'autre, la médecine et la chirurgie pour réparer le vivant. Alors pourquoi au milieu de tout ça, votre intérêt s'est-il finalement porté sur les enjeux des révolutions technologiques ?
Ah, parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'ingénieurs et de techniciens qui s'occupaient de technologie, mais on ne réfléchissait pas, de mon point de vue, suffisamment aux enjeux sociaux, politiques et économiques de toutes ces technologies-là. Notamment sur l'intelligence artificielle, il y a plein de spécialistes de l'intelligence artificielle qui en parlent. En revanche, les conséquences sur l'école, les conséquences sur la politique, les conséquences sur l'équilibre entre les différents pays, on n'en parlait pas. Le fait que le pouvoir soit en train de basculer de nos États traditionnels vers les géants du numérique que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et leurs équivalents chinois, on n'en parlait pas suffisamment. Et donc j'ai eu envie de dire qu'à côté des enjeux techniques, il y avait des enjeux politiques, sociaux, éducatifs majeurs derrière l'intelligence artificielle et les technologies. Parce qu'il y a plein de questions. Faut-il accepter les technologies qu'Elon Musk est en train de développer pour mettre des circuits intégrés dans le cerveau de nos enfants ? Faut-il accepter la modification des embryons grâce aux nouvelles technologies qui vont nous permettre de modifier l'ADN des cellules ? Faut-il laisser Elon Musk et le patron d'Amazon coloniser le système solaire et le cosmos ? Faut-il laisser Google nous rendre immortels ? Faut-il laisser Mark Zuckerberg, là encore le patron de Facebook, qui veut supprimer toutes les maladies d'ici 2099, jusqu'où faut-il laisser un immense pouvoir technologique, mais aussi politique, aux géants du numérique, aux patrons de l'intelligence artificielle américains et chinois ? Parce qu'on en revient toujours là. Les grandes puissances dont on parle, elles sont toutes en train de naître derrière l'intelligence artificielle que ces géants maîtrisent mieux que les sociétés européennes.
Alors justement ça, on va l'évoquer bien sûr tout à l'heure, mais je voudrais juste un instant rester sur votre cas à vous, cher Laurent Alexandre, et vous poser cette question naïve. Comment à la fois peut-on faire médecine, HEC et l'ENA ?
Et Sciences Po.
quand j'étais
jeune, j'avais une très très bonne mémoire.
Vous mettez ça sur le compte de la mémoire ?
Ah bah la mémoire, ça aide, vous savez. Hein.
Bon, si je vous demande votre QI, vous me répondez ou pas ?
Ça n'a aucun intérêt.
Ça n'a aucun intérêt, cet homme est formidable. J'imagine qu'enfant, la curiosité du monde était déjà votre principal carburant, non ?
J'étais passionné par la technologie, mais aussi par la politique et par l'économie. Comprendre le monde était mon moteur. J'adorais parler avec des chercheurs, avec les grandes personnes. Je lisais beaucoup. J'étais fasciné par le futur, déjà. Je n'ai pas changé. Je n'étais pas du tout un enfant nostalgique. J'étais tourné vers demain et je voulais découvrir ce que la technologie allait nous apporter et avec gourmandise.
Alors, retournons à la formidable guerre des intelligences, sous-entendu intelligence artificielle contre intelligence humaine, qui est le sujet de votre dernier ouvrage paru chez Lattès, Laurent Alexandre. Vous affirmez que les géants chinois et américains du numérique ont d'ores et déjà gagné la bataille de l'intelligence artificielle sans aucune concurrence de l'Europe. Pourquoi n'y a-t-il aucun géant du numérique d'origine européenne ?
Parce qu'on s'y est pris comme des clampins. On n'a pas investi sur l'intelligence artificielle. On a bloqué le développement des sociétés numériques. Donc effectivement, on a gagné. À force de ne pas investir dans ces sujets-là, à force d'avoir des budgets de la recherche très très faibles en matière d'intelligence artificielle, de ne pas beaucoup soutenir nos start-up et d'avoir des législations très restrictives, nous sommes aujourd'hui pris en sandwich entre les GAFA américains et puis les BATX chinois. La Chine fait des progrès absolument invraisemblables en intelligence artificielle.
Elle est passée devant la Silicon Valley, n'est-ce pas ?
Sur certains domaines, elle est en train de rattraper la Silicon Valley. Et le président chinois, cet automne, a déclaré que le but du Parti communiste chinois était que la Chine devienne la première puissance mondiale en 2040 sur le plan technologique, sur le plan militaire et sur le plan industriel grâce à l'intelligence artificielle. On voit bien que la guerre des intelligences artificielles a des conséquences militaires et géopolitiques. Les pays qui ne maîtrisent pas l'intelligence artificielle deviennent décolonisés.
Alors, justement, pour l'Europe, le dossier est plié. On a perdu la bataille, c'est fini.
Alors, pour l'instant, le dossier est plié. Comme vous savez, les Google, les Apple, les Facebook, les Amazon, etc., il n'y en a aucun qui est européen. Nous avons des petits acteurs du numérique, nous avons des nains numériques, des boîtes qui valent 1 milliard, 2 milliards, pendant que les géants du numérique, ils se rapprochent de 1 000 milliards. Vous savez, Tencent, qui est un des leaders chinois de l'intelligence artificielle et qu'aucun de vos éditeurs ne connaît, Tencent est la 5e entreprise la plus grosse au monde. Tencent vaut 550 milliards en bourse. Personne ne la connaît, mais c'est l'un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Et on voit le décalage entre nos toutes petites start-up misérables, même si les dirigeants se donnent beaucoup de mal, et puis les géants du numérique chinois et californien. L'Europe a loupé le coche. Est-ce qu'elle peut se rattraper aux branches ? Oui, si elle se met à beaucoup bosser. Si elle suit les préconisations qu'il y aura dans le rapport de Cédric Villani, et qui a été nommé par le gouvernement pour réfléchir à ces questions, et qui a parfaitement compris tous les enjeux industriels derrière l'intelligence artificielle. Mais là, il faut qu'on bosse. C'est-à-dire, si on ne bosse pas, nous serons le Zimbabwe de 2080.
Alors, en attendant ces progrès, Laurent Alexandre, en mai 2017, une étape très très étonnante a été franchie dans l'intelligence artificielle. En effet, en mai 2017, le programme informatique AlphaGo a terrassé par 3-0 le champion du monde de jeu de Go. Et le jeu de Go, c'est un jeu beaucoup plus complexe que en fait, les échecs. La machine n'a pas appris à jouer en analysant des parties humaines, mais en jouant contre elle-même. Or, le jeu de Go, contrairement au jeu d'échecs, eh bien, il obéit à une logique intuitive. Alors, est-ce que cette bataille, en fait, de l'AlphaGo sur le champion du monde de jeu de Go, ça signifie que maintenant, les ordinateurs seraient doués, en tout cas, d'instinct ?
Alors, d'instinct, non, mais ils peuvent avoir de l'intuition. Certains pensent que la victoire d'AlphaGo au jeu de Go est peut-être le chemin qui montre comment, en quelques décennies, une intelligence artificielle pourrait acquérir une conscience artificielle. Et d'ailleurs, on peut se demander s'il est justifié d'apprendre à des ordinateurs à jouer au jeu de Go, alors qu'on sait que le jeu de Go, c'est la manipulation et le contrôle de l'autre. Faut-il apprendre aux intelligences artificielles à chercher à nous avoir, à chercher à nous dépasser, à chercher à nous encercler ? C'est pas sûr. Il faudrait sans doute réfléchir au périmètre de ce qu'on apprend à l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. Mais vous savez, ce développement d'une certaine intuition de l'intelligence artificielle, on le voit dans le dossier que The Economist, le grand magazine économique anglais, a fait récemment, qui s'intitulait « Nulle part pour se cacher »,« Nowhere to hide » en anglais, et dans lequel il montrait que l'intelligence artificielle, sur une photo de nous, est capable de déterminer notre sexualité, est-on hétérosexuel ou homosexuel, et est capable d'approcher notre quotient intellectuel. Ce sont des choses qu'un homme n'est pas capable de faire sur une photo. Mais l'intelligence artificielle est maintenant capable
ça,
de le faire.
Mais ça, c'est effroyable ce que vous nous apprenez.
Ah ça veut dire qu'on ne peut pas se cacher. Alors vous imaginez bien que dans un pays comme la France, où le mariage gay est autorisé, ou l'Angleterre, c'est pas grave.
Voilà, mais
qu'on puisse reconnaître
dictatures.
Votre sexualité avec une photo. Mais vous imaginez bien qu'en Égypte ou au Pakistan, où l'homosexualité est punie de mort, il est extrêmement dangereux qu'une intelligence artificielle puisse reconnaître si quelqu'un est gay ou hétérosexuel.
Tout cela est aussi redoutable que passionnant. On fait une courte pause et on retrouve tout de suite Laurent Alexandre. L'Institut Rockefeller à New York a démontré que l'intelligence artificielle est 1000 fois plus rapide que le meilleur généticien au monde pour analyser un cancer du cerveau. Alors aujourd'hui, je dis bien 1000 fois plus rapide. En 2030, eh bien on nous annonce que ce sera 1 milliard de fois plus rapide. Alors, comme avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas de retour en arrière possible, il va donc être de plus en plus difficile pour un être humain d'apporter sa contribution productive à la société. Ça, c'est révolutionnaire. Que va-t-on faire de nos enfants ?
D'abord, dans l'exemple de l'Institut Rockefeller, il y a des tas de choses que les cancérologues, que les généticiens continuent à faire. Ce n'est pas parce que certaines tâches sont faites par les machines qu'on ne fait plus rien. Aujourd'hui, nous avons des machines, nous avons des marteaux-piqueurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'ouvriers sur les centres de construction. Nous avons plein de machines, cela n'a pas remplacé l'homme.
Vous dites par exemple à la fin de votre ouvrage, il y a une lettre extraordinaire que vous avez rédigée pour vos enfants et vous leur dites alors surtout ne faites pas médecine parce que si vous voulez devenir chirurgien, eh bien 100% en fait des opérations seront robotisées quand vous aurez tout juste terminé vos études.
J'ai pas dit ne faites pas médecine. Et d'ailleurs mon fils aîné va peut-être faire médecine, j'ai dit ne faites pas chirurgie. Et je pense que médecin est un métier magnifique. D'ailleurs, j'encourage les jeunes courageux et travailleurs à faire médecine. Je pense que nous rentrons dans l'âge d'or de la médecine, non pas forcément pour faire de la médecine traditionnelle, mais pour faire de la recherche, pour faire de l'éthique médicale. Donc je ne suis pas du tout pessimiste pour la médecine. Moi, je ne crois pas à la fin du travail. C'est-à-dire de même que la machine à vapeur n'a pas détruit le travail, je ne crois pas du tout que l'intelligence artificielle va supprimer le travail humain. En revanche, il y a des millions de métiers, il y a des millions d'emplois qui vont disparaître et on va trouver d'autres métiers. On va faire des choses que l'intelligence artificielle ne sait pas faire. L'intelligence artificielle n'a pas d'esprit critique. Elle n'est pas transversale, elle n'est pas multidisciplinaire. Elle n'est pas capable d'aborder un sujet par de multiples axes qu'un esprit humain est capable de faire. Donc il va rester du boulot pour très très longtemps pour vos auditeurs et pour leurs enfants. Je ne suis pas inquiet. L'intelligence artificielle va faire de l'art, notamment en musique, mieux que nous. Mais on va changer de métier, on va devenir manager d'intelligence artificielle. On va organiser, quand on est musicien...
Ça, c'est dans le scénario optimiste.
Les interactions entre les différentes intelligences artificielles musicales. Je pense qu'au contraire, nous allons découvrir des milliers de nouveaux métiers. Et vous savez, en 1900, quand la machine à vapeur et la machine électrique ont bouleversé les usines et la société industrielle, on n'imaginait pas à l'époque qu'il y aurait un jour des youtubeurs, qu'il y aurait des journalistes de radio, qu'il y aurait des chirurgiens cardiaques, qu'il y aurait des astronautes, qu'il y aurait des fabricants de microprocesseurs. Tous ces métiers, on ne les imaginait pas. On est aujourd'hui dans la même situation. On voit bien les métiers que l'intelligence artificielle va détruire. On ne voit pas encore tous les métiers qui vont apparaître au XXIe siècle. Et il y en a beaucoup plus que de métiers qui vont disparaître.
Alors, vous m'avez presque convaincu, mais je voudrais qu'on reste un moment sur la robotisation. Les deux pays les plus robotisés du monde sont le Japon et l'Allemagne, où règne le plein emploi. Mais, en fait, comme le taux de natalité est depuis longtemps très faible dans ces deux pays, eh bien, les robots ne remplacent pas les travailleurs, parce que, en fait, ils compensent simplement la pénurie de main-d'œuvre, n'est-ce pas ? Donc, ce qu'on nous raconte sur le plein emploi dans les pays les plus robotisés, c'est malhonnête. En fait, pour ne pas avoir peur de la robotisation, il faut être dans un pays dont le taux de natalité est très faible.
Je ne crois pas ça. Je pense que les pays qui sont très robotisés, ils ont le plein emploi parce qu'ils produisent des produits à très haute gamme. On le voit bien en Suisse, on le voit bien en Allemagne du Sud. Quand vous fabriquez des magnifiques BMW, vous les vendez mieux que quand vous fabriquez des voitures pourries. Et la robotique permet de faire des meilleures voitures, des voitures de meilleure qualité. Donc, quand vous avez une industrie fortement robotisée, vous faites du haut de gamme et ça diminue le chômage parce que vous avez moins de concurrents.
Bon, alors l'intelligence artificielle, elle va effectivement mieux opérer, mieux conduire, mieux analyser, mais on va quand même dépendre d'elle parce que dans le monde qu'elle crée, n'est-ce pas ? Eh bien, ce monde, en fait, n'est lisible et contrôlable que par elle.
Oui, mais vous savez, on est déjà dans cette situation. Vous en rendez pas compte ? Mais si vous fermez l'ordinateur de bord des avions, il n'y a plus un seul avion qui décolle. Aucun avion ne peut voler si on bloque l'ordinateur de bord. L'ordinateur de bord dans les avions génère des milliards d'informations à la seconde. Sur un Airbus A380, il y a des milliers de capteurs. il n'y a que le système informatique de l'avion qui peut analyser toutes ces données-là. Comment voulez-vous que le pilote et son copilote, même s'ils sont très doués, puissent analyser des centaines de milliards d'informations chaque seconde ? Donc, en réalité, nous avons déjà donné le contrôle aux machines sur des aspects importants
comme
de notre vie.
Comme par exemple dans les banques. Vous dites dans votre livre que chaque banque, en fait, est attaquée des millions de fois chaque jour par des hackers. Donc
Des milliards de fois chaque jour. Et ce ne sont pas des informaticiens qui bloquent les différentes attaques.
C'est l'intelligence artificielle.
Venant des hackers, venant de la Russie, venant de la Chine, venant des Coréens du Nord, etc. etc. Ce sont bien sûr des intelligences artificielles, des systèmes informatiques très sophistiqués qui bloquent les innombrables attaques dont nos banques sont victimes seconde après seconde.
Bon, alors, pour parler du cerveau augmenté, pour tenter de survivre face à cette supériorité écrasante de l'intelligence artificielle, la Silicon Valley, au moment où nous parlons, travaille activement à développer des technologies invasives qui vont faire pénétrer dans notre cerveau des bribes d'intelligence artificielle. Donc, concrètement, on va greffer de l'intelligence avec des microprocesseurs, avec des prothèses qui vont barder nos milliards de neurones.
Alors, ça ne veut pas dire que ça va arriver demain matin, mais Elon Musk a créé une société, Neuralink, qui est destinée à mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux pour augmenter nos capacités. L'idée qu'a Musk, qui est assez pessimiste en matière d'intelligence artificielle, l'idée qu'a Musk, c'est qu'on ne va pas résister, on ne va pas tenir face à l'intelligence artificielle, et que pour éviter un monde où on serait en danger face à l'intelligence artificielle parce qu'on ne comprendrait pas ses projets, et pour éviter un monde inégalitaire entre les gens intelligents et les gens moins intelligents, il est nécessaire d'augmenter le cerveau de tout le monde grâce à des prothèses intracérébrales. Donc son projet, c'est effectivement de faire de l'augmentation, on appelle ça de l'augmentation cérébrale, grâce à des dispositifs électroniques miniatures qui seraient autour de nos neurones. On a 83 milliards de neurones dans le cerveau. Et l'idée de Moss, c'est de mettre des petits processeurs électroniques autour de nos neurones, de nos milliards de neurones, de manière à augmenter la vitesse, l'efficacité du fonctionnement de nos cerveaux. Ça pose des problèmes politiques, éthiques, absolument énormes. Et que ferait-on des gens qu'on n'augmente pas ? Imaginez qu'il y ait des gens qui refusent qu'on mette des microprocesseurs dans le cerveau de leurs enfants. Leurs enfants seraient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intelligents dans cette hypothèse que les autres enfants.
Ou on pourrait décider de ne pas les augmenter.
Ils deviendraient des parias. C'est-à-dire qu'ils ne comprendraient rien au monde qui vient et ils seraient finalement les domestiques des enfants dont le cerveau aurait été augmenté par la technologie d'Elon Musk.
Alors, entrons de plein pied dans le transhumanisme, dont le but avoué, n'est-ce pas, c'est l'interface de l'homme avec la machine, en fait. L'interface de l'intelligence artificielle avec nos cerveaux. Le gourou du transhumanisme chez Google, l'effrayant Ray Kurzweil, il nous promet une humanité transformée dès 2040. C'est demain, c'est tout à l'heure. C'est un idéologue fou, Ray Kurzweil, ou bien c'est un visionnaire serein ?
Alors, les projets transhumanistes sont aujourd'hui portés par les géants de la technologie, les Google, Apple, Facebook, Amazon et leurs équivalents chinois. Donc nous avons des puissances énormes, des puissances technologiques énormes, des puissances industrielles énormes, qui ont énormément, énormément d'argent, des centaines et des centaines et des centaines de milliards, qui ont pour objectif de changer notre humanité, de nous modifier, de nous augmenter. Et on pourrait penser que c'est de la science-fiction. Sauf que ces projets ont commencé et que les géants du numérique ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour développer leurs fantasmes technologiques.
Alors justement, moi je tremble en imaginant Hitler, en ce début de 21e siècle, à la tête d'un géant du numérique.
Dans les décennies qui viennent, il va falloir que ces grands groupes technologiques soient régulés. On ne pourra pas laisser Elon Musk sans aucun contrôle du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation, mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants, même si les parents sont d'accord. Il faudra bien qu'il y ait une régulation. L'homme devient un homme-dieu. L'homme devient un homo deus, mais il va quand même falloir qu'on régule cette folie technologique. Nous ne pouvons pas descendre le toboggan technologique et changer l'humanité en quelques décennies sans qu'il y ait un débat politique, sans qu'il y ait un débat social. Il va falloir qu'on en discute. Et d'ailleurs, ça me désole de voir à quel point les politiques parlent de conneries au lieu de parler de ces enjeux technologiques et sociaux fondamentaux autour des nouvelles technologies.
Les politiques et nos démocraties n'ont absolument pas conscience de toutes ces révolutions en marche.
La Californie a bien compris et la Chine a bien compris, mais la Chine n'est pas une démocratie.
Non.
Donc l'Europe démocratique se trouve coincée entre une Amérique et puis une Chine autoritaire qui galope sur le plan technologique. Et le grand danger, finalement, c'est que la technologie nous soit imposée de l'extérieur, comme aujourd'hui nos téléphones et toutes les technologies qui viennent avec.
Et pour déclarer des guerres,
viennent de l'extérieur.
Parce que la transmission par télépathie, on peut imaginer que une dictature puisse lancer des armées par télépathie avec des hommes implantés, augmentés.
Il va falloir réguler ça. Hein. À partir des casques de télépathie, on pourrait aussi savoir ce qu'on pense. On pourrait supprimer notre intimité. C'est la raison pour laquelle les dirigeants de Google ont promis que leur casque de télépathie ne lirait dans notre cerveau qu'avec notre assentiment. C'est-à-dire que nous aurions la possibilité d'empêcher les casques télépathiques de lire des choses dans notre cerveau. Imaginez que vous communiquez avec votre femme et qu'elle découvre que vous avez une maîtresse, ou inversement. Voyez que la télépathie pose un problème, c'est qu'elle permet à l'autre, potentiellement, de découvrir ce qu'il y a au fin fond de notre cerveau, et dont on n'a pas forcément envie de révéler aux autres.
On retrouve immédiatement Laurent Alexandre. Cher Laurent Alexandre, est-ce que la très grande intelligence n'est pas un handicap au bonheur ?
Ah ben c'est une bonne question. Il y a une rumeur qui voulait que les gens les plus intelligents étaient malheureux et mal dans leur pompe. Et une étude a démontré que c'était une rumeur urbaine. Ça n'est pas le cas. Donc finalement, on n'est pas plus malheureux quand on est intelligent que quand on est moins intelligent, contrairement à ce qu'on a longtemps raconté. Donc être intelligent ne rend pas malheureux, ce qui ne veut pas dire que tous les gens intelligents soient forcément très très heureux.
J'entends bien. Alors revenons au sujet de votre livre. Au moment où le cerveau commence à peine à se comprendre, et ben voilà qu'il doit affronter la tornade de l'intelligence artificielle et l'arrivée du transhumanisme qui nous promet la mort de la mort et des cerveaux augmentés, bref, qui nous promet l'homme-dieu. Et vous, Laurent Alexandre, vous êtes persuadé que la plupart d'entre nous accepteront ces transgressions pour moins vieillir, pour moins souffrir, pour moins mourir. Mais c'est effrayant d'imaginer devenir éternel dans un univers qui, lui, a une fin.
Alors, les transhumanistes et Google veulent nous rendre immortels. C'est pour ça donc que Google a créé une société spécialisée dans la lutte contre la mort. Mais évidemment, si on est immortel mais que l'univers meurt à la fin, on n'est pas vraiment immortel. C'est pour ça qu'il y a certains des transhumanistes de la Silicon Valley qui pensent que nous devons conquérir le cosmos et nous organiser pour empêcher l'univers de mourir. Normalement, l'univers doit mourir dans Gogol année, c'est-à-dire 1 avec 100 zéros année derrière. Mais certains transhumanistes imaginent que nous pouvons devenir, grâce à l'intelligence artificielle, tellement puissants dans quelques centaines de milliards d'années que nous pourrions à ce moment-là empêcher la mort de l'univers. Déplacer la Terre d'abord, quand notre Soleil va exploser dans 2-3 milliards d'années, faire attention à ce que notre galaxie ne soit pas détruite lors de sa rencontre dans 2 milliards d'années avec la galaxie d'Andromède, qui pourrait causer des grands dégâts, mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est la mort de l'univers à la fin.
Et repartir en arrière, avant le Big Bang, pour peut-être reprogrammer le chemin de l'humanité.
On n'en est pas là. Mais c'est vrai que certains transhumanistes veulent empêcher la mort de l'univers pour nous rendre cette fois-ci définitivement et totalement immortel et éternel.
Alors, question incongrue et profane, Laurent Alexandre. Le transhumanisme nous promet donc l'immortalité en arrêtant le vieillissement de notre apparence, mais à quel âge à l'échelle de l'éternité ?
C'est-à-dire qu'on sera éternel en ayant 18 ans ? Ah bah, évidemment, vivre longtemps n'a de sens que si on reste jeune. Si on doit être pendant 5000 ans des vieillards gâteux avec un déambulateur en radotant toute la journée, c'est pas très intéressant.
Non, mais il va falloir déterminer le pic de l'âge intéressant. Sera-ce 20 ans, 30 ans, 40 ?
Ce sera une question intéressante, mais une partie des transhumanistes de la Silicon Valley vont plus loin, notamment Kurzweil. Kurzweil pense qu'on va abandonner notre corps et qu'on deviendra et qu'on transférera notre cerveau, le contenu de notre cerveau dans des ordinateurs. Le problème du vieillissement ne se poserait plus, nous n'aurions plus de corps. C'est de mon point de vue un cauchemar, mais il y a beaucoup de gens dans la Silicon Valley qui pensent que c'est l'avenir de l'homme d'abandonner son corps.
Bill Gates et Stephen Hawking font des prophéties absolument apocalyptiques sur le transhumanisme. Vous les partagez ou pas, Laurent Alexandre ?
Je suis plutôt optimiste. Donc je pense que ça va être très chaud dans les décennies et les siècles qui viennent. Je pense que de réguler notre pouvoir incroyable que nous allons avoir grâce à la technologie. Ça ne va pas être simple, mais je ne crois pas à la fin de l'humanité, je ne crois pas au dépassement de l'homme par l'intelligence artificielle. Je suis optimiste, mais c'est ma nature, ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein, et ça ne veut pas dire que ce soit argumenté. Mais moi, je regarde l'avenir plutôt avec confiance, c'est pour ça que j'ai fait des enfants, c'est pour ça que je les pousse à s'intéresser au futur et que je ne leur tiens pas un discours apocalyptique qui, à mon avis, est le meilleur moyen pour que les gamins aient la vie gâchée, ne fassent pas beaucoup d'études et ne soient pas épanouis. Je pense qu'il faut partager avec les jeunes générations une vigilance par rapport à la technologie, mais sans les paniquer.
Bon, une vigilance, mais il n'empêche que vous affirmez dans votre nouveau livre, La guerre des intelligences, que les transhumanistes, à terme, prendront le pouvoir. Ils vont prendre le pouvoir démographique, parce qu'ils vont vivre beaucoup plus longtemps grâce aux technologies anti-vieillissement. Ils vont prendre le pouvoir politique, le pouvoir économique, grâce à leur capacité intellectuelle augmentée par des microprocesseurs. Donc en fait, l'homme-machine est en marche. On ne peut pas l'arrêter.
On peut toujours arrêter, hein. Il y a des choses il y a des évolutions technologiques qui ont été arrêtées. Mais oui, effectivement, si on ne régule pas ces technologies-là, les transhumanistes prendront mécaniquement le pouvoir. D'abord parce qu'ils seront plus nombreux, parce qu'ils vont vivre plus longtemps. Ils seront plus nombreux parce qu'ils vont utiliser l'utérus artificiel pour faire plein d'enfants. Et puis, d'autre part, ils auront le pouvoir politique parce que comme ce seront les premiers à accepter de se mettre des microprocesseurs dans le cerveau pour être plus intelligents, ils seront plus intelligents que nous et donc ils prendront le pouvoir. Il ne faut pas oublier que l'intelligence de tout temps, c'est toujours ce qui a permis de prendre le pouvoir.
Alors l'intelligence artificielle qui permet le transhumanisme, on le disait tout à l'heure, se résume en fait à une puissance de calcul. Est-ce que cette puissance de calcul qui fabrique déjà des robots peut fabriquer des sentiments ?
Ah, c'est une question très difficile. En plus, c'est quoi un sentiment ? On pourrait imaginer une intelligence artificielle
qui
simule le sentiment, qui nous fasse croire qu'elle a des sentiments. Comme dans le film de science-fiction Ex Machina, où l'intelligence artificielle, pour sortir de sa prison, fait croire au jeune développeur informatique qui est puceau qu'elle est amoureuse de lui. Il la libère et après elle s'en va en le laissant mourir. Comment on sépare le sentiment et la simulation ? C'est pas simple, mais dans les sentiments humains, on est parfois hypocrite, on simule parfois l'amour, on simule la bienveillance, notamment quand on veut manipuler les autres, et même en sexe, on a des femmes qui simulent l'orgasme.
Chiche, on termine cette conversation pour l'instant sur cette phrase étonnante de votre part. On retrouve tout de suite Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, à la fin de l'ouvrage absolument passionnant intitulé « La guerre des intelligences » que vous faites paraître chez Lattès, vous avez rédigé une lettre adressée à vos enfants. Ils ont quel âge d'ailleurs, vos enfants ?
17, 16 et 12.
17, 16 et 12. Alors, première mise en garde, ai-je envie de dire, face à un monde construit par des algorithmes. Vous écrivez « Bon, pisser du code informatique, c'est plus un métier d'avenir. Il faut apprendre à décoder le monde plus qu'à coder des programmes informatiques. » Mais concrètement, décoder le monde, ça veut dire quoi ?
Les humanités. Pour les enfants aujourd'hui, il faut lire, il faut faire de la philosophie, il faut faire de l'histoire, il faut faire de la géographie, il faut s'intéresser au sens social, aux humanités. Il ne faut pas que les gamins deviennent tous codeurs informatiques, d'ailleurs parce que l'intelligence artificielle va coder beaucoup mieux que la plupart des codeurs informatiques. Donc il faut aller là où l'intelligence artificielle n'est pas bonne. Il faut fuir les endroits où l'intelligence artificielle va être bonne, comme le codage informatique, et il faut aller vers les endroits où l'intelligence artificielle n'est pas bonne. Les humanités, la transversalité, ce qui nécessite de l'esprit critique. Donc c'est normal. Il faut aller là où l'ennemi est mauvais. Et il ne faut pas aller là où l'ennemi est présent et fort.
Vous abordez la politique en les enjoignant de refuser l'idée d'un gouvernement mondial qui pourrait créer donc une neurodictature éternelle grâce aux technologies portées par l'intelligence artificielle. Ça, c'est essentiel, le refus d'un gouvernement mondial.
Oh oui, l'idée qu'il faut un seul pays, qu'on a un seul gouvernement mondial, ce serait suicidaire. Imaginez qu'un dictateur disposant des technologies Neuralink d'Elon Musk gouverne le monde entier. Nous aurions effectivement une dictature cérébrale. Il faut qu'il y ait plusieurs entités, plusieurs endroits, de manière à ce que s'il y a une dictature quelque part, on puisse se tailler.
Se tailler, ben justement, vous leur conseillez à vos enfants, vous leur dites, partez dans la zone Asie-Pacifique sans hésiter.
J'ai dit, si l'Europe ne se modernise pas, si l'Europe ne se bat pas contre les géants du numérique, si nous démissionnons, alors partez.
Mais la bataille, elle est presque perdue.
Non, mais la bataille n'est jamais perdue. Mais il faut qu'on se batte. Il faut que nos élites politiques comprennent ces sujets technologiques. Il faut que le Parlement s'y intéresse. D'ailleurs, au Parlement, il y a des gens, à part Cédric Villani, hein, qui connaissent bien ces sujets-là. Quelqu'un comme Olivia Grégoire, par exemple, chez En Marche, connaît bien ces sujets-là. Vous avez à droite aussi des hommes qui connaissent très très bien les sujets de l'intelligence artificielle, comme Jean-François Copé. Donc à droite et à gauche, il y a des gens au Parlement qui commencent à s'intéresser à ces sujets-là, mais il n'y en a pas encore assez, il faut qu'il y en ait davantage. Donc il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on augmente les budgets de recherche, il faut qu'on favorise le développement des start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, mais la bataille n'est pas encore complètement perdue pour l'Europe.
Elle n'est pas encore complètement perdue pour l'Europe, dit-il. Et enfin, vous rajoutez, ne faites jamais rien en fonction de ce qu'auraient fait vos parents. Alors, je pense avec mélancolie à la transmission horizontale du savoir par les vieux sages dans les sociétés africaines.
Oui, mais là, le monde va trop vite pour que les parents puissent transmettre des savoirs aux enfants.
D'ailleurs, c'est nouveau dans l'humanité, le fait que les enfants aient plus de clés pour décoder le monde actuel que les adultes.
À mon âge, j'ai bientôt 58 ans, je suis un vieux con. Si je me mets à transmettre à mes enfants mes valeurs, ma vision du monde, je vais en faire des jeunes vieux cons. Donc il faut qu'ils se déterminent par eux-mêmes, en fonction de l'ère du temps, de l'époque dans laquelle ils vivent. Comme je leur dis toujours, je suis né 5 ans avant l'énoncé de la loi de Moore par Gordon Moore, hein, qui a fondé l'informatique récente. Je suis un homme du passé, je suis un homme du milieu du XXe siècle, donc il serait dégueulasse de ma part d'ancrer mes enfants dans le siècle passé.
Il existe un seul scénario, un seul qui vraiment permettrait d'écarter toutes les prophéties induites par la prise de pouvoir de l'intelligence artificielle sur l'intelligence humaine. Est-ce que, bon, on parle de déontologie, on parle d'éthique, il faut protéger, il faut réguler, il faut... Mais on avance l'homme-machine.
Il va falloir réguler. Il va falloir réguler ces technologies-là, donc il va falloir que les politiques s'y intéressent. Il va falloir des agences de contrôle de l'intelligence artificielle, comme il y a des agences de contrôle du médicament ou des agences qui suivent la traçabilité de la viande. Il va falloir réguler l'intelligence artificielle, veiller à ce qu'elle veiller à ce qu'elle ne devienne pas hostile. Et il va falloir surtout moderniser l'école, de manière à éviter qu'on ait un monde à deux vitesses. Moi, c'est quelque chose qui m'obsède.
Vous dites que l'école d'aujourd'hui forme au métier d'hier.
Elle forme au métier d'hier, mais c'est un peu normal parce qu'on ne connaît pas bien encore les métiers de demain. Mais le plus grave, c'est qu'elle pérennise les inégalités intellectuelles. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir maintenant à une école qui diminuerait les inégalités intellectuelles. Or, aujourd'hui, à la sortie de l'école, les inégalités intellectuelles sont gigantesques. L'école produit à la fois des gamins intelligents, doués et cultivés, et puis des gamins malheureusement pas très doués, pas cultivés et qui comprennent pas bien le monde qui vient. En Italie comme en France par exemple, un tiers des gamins à la sortie de l'école sont incapables de lire un texte simple de quelques lignes et d'en faire un résumé. C'est sûr que ce tiers de gamins complètement largués va avoir du mal dans l'économie de l'intelligence artificielle et l'économie de la connaissance. Nous sommes en train de créer une cocotte minute intellectuelle avec d'un côté des gens dont ça va être l'âge d'or et qui vont être comme des poissons dans l'eau dans le monde extraordinaire de 2050, et puis des pauvres gamins qui vont être abandonnés, qui vont être paumés face à l'intelligence artificielle. Il faut accélérer. Jean-Michel Blanquer fait des choses remarquables. Et moi, personnellement, je suis un fan de Jean-Michel Blanquer. Il fait des choses formidables, mais il va falloir aller encore plus vite dans les années qui viennent. Il va falloir, d'ici 2030-2035, doubler le budget de l'éducation. C'est un immense effort budgétaire qu'il va falloir faire. Et il va falloir commencer par les zones difficiles. Moi, je suis favorable à ce qu'on modernise l'école en commençant par les zones les plus défavorisées, et notamment en primaire, à ce qu'on mette des écoles... de la qualité des écoles Montessori dans les zones difficiles comme le 9-3 pour réduire les inégalités intellectuelles, pour rétablir la balance entre les gamins favorisés et les gamins pas favorisés. Parce que je ne veux pas d'un monde profondément inégalitaire, je ne veux pas qu'on revienne au monde de 1750.
Avant de nous quitter, Laurent Alexandre, je pense au monde d'avant avec sa poésie du hasard. Ça n'existera plus, la poésie du hasard dans un monde programmé.
Alors moi, je ne crois pas que le hasard va disparaître. Je pense au contraire que ces technologies bouleversantes que sont l'exploration du cosmos, les manipulations du cerveau, l'intelligence artificielle, la mort de la mort, la génétique, va créer plein d'incertitudes. D'abord, il y aura des accidents, il y aura des choses totalement imprévues, et la réaction politique et sociale de l'humanité va créer plein d'imprévus. Donc je crois au contraire qu'on ne va pas être dans une société algorithmique où tout est prévu. Je pense qu'on va être dans un monde très bordélique, très imprévisible, avec des surprises à chaque coin de rue. Parce qu'il n'y a pas que la technologie, il y a aussi la réaction politique du corps social. Et des révolutions sont possibles, des ruptures sont possibles. Ne vous y trompez pas, nous rentrons dans un siècle de surprises et non pas du tout de stabilité algorithmique.
Bon, et ben les dieux vous entendent, s'il n'existe pas à l'intérieur des ordinateurs en tout cas. Merci infiniment pour cette conversation absolument passionnante. Et je rappelle le titre de l'ouvrage qui vient de paraître chez Lattès, La guerre des intelligences. À bientôt, Laurent Alexandre.